Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Alliance Plus, si vous êtes sur le 103.1 dans l'agglomération nîmoise, ou bien peut-être, qui sait, en Martinique, en Guyane. Nous pensons à tous ceux qui sont au loin et qui peuvent nous rejoindre et partager cette parole, cette joie de la fête de Pâques aujourd'hui à travers le radioallianceplus.fr. La fête de la vie retrouvée pour les croyants chrétiens et même juifs, hein, Pâques et Pessah, sont une fête majeure de l'année et pour beaucoup c'est même la plus importante. On y fête la victoire de la vie, la renaissance d'un peuple, la liberté retrouvée. Alors pour Pâques 2020, Pâques marquée par un événement improbable, une pandémie, un confinement planétaire, cette fête peut prendre une signification profonde, enrichissante, que l'on soit croyant ou simplement attaché à cette belle tradition. Radio Alliance Plus, l'Église protestante unie de France à Nîmes et l'Église française du canton de Saint-Gall en Suisse vous proposent le culte de Pâques, la fête de la vie retrouvée, avec la pasteur Claire Déménard, pasteur de l'Église protestante unie à Nîmes.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit-Saint qui nous les fait connaître. Comme au premier jour de la création, où la lumière fut séparée des ténèbres, comme à la nuit étoilée de Noël, où de simples bergers furent avertis de la naissance d'une bonne nouvelle, comme au moment de Pentecôte, soudain survenu au cœur d'une maison de Jérusalem. Voici, le matin de Pâques, lumière d'une bonne nouvelle qui vient nous trouver là où nous sommes, là où nous en sommes.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi.
Chers amis, chers frères et sœurs, Christ est ressuscité. Cette bonne nouvelle nous rassemble aujourd'hui. Il est vraiment ressuscité. Il vient trouver chacun et chacune d'entre nous, chez nous, à domicile. Réjouissons-nous donc, soyons dans la joie, car il est là. Je vous invite à prendre maintenant quelques minutes pour préparer, chez vous, ce repas du Seigneur qui vient. Une musique vous accompagnera. C'est le chant des anges, composé par Mendelssohn, qui reprend les paroles d'un psaume. Lève les yeux vers les montagnes. Le Seigneur te protège et te garde. Lève les yeux vers les montagnes. Le Seigneur te protège et te garde. Plusieurs parmi nous sont venus de loin pour entendre aujourd'hui la bonne nouvelle de son royaume de paix et d'amour. En allumant notre poste de radio ou en nous branchant sur Internet, en préparant un repas modeste, nous avons fait un pas, humble mais riche de sens. Et nous nous tenons maintenant, chacun et chacune, sur le seuil. Sur le seuil de nos temples, sur le seuil de nos maisons, sur le seuil de nos chambres, dans le désir de nous retrouver et d'être par Dieu trouvés. Ensemble, nous louons Dieu avec le psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Nous chanterons les deux premières strophes de ce psaume. Oui, grâce à toi, Seigneur, j'avance d'un pas vainqueur. Grâce à toi, mon Dieu, les murs qui nous entourent n'ont plus d'importance. Nous voici devant toi, en ce matin où la lumière a paru. Et voici, à cette lumière, nous pouvons entendre à nouveau ta volonté pour nous. Elle nous est donnée dans l'un des textes prévus pour ce jour, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4.
Si donc vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Amen.
Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre, comme cela nous est difficile, particulièrement en ces moments que nous vivons. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire, penser à ce qui est en haut? Comme le psalmiste qui s'écrit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Comme lui, dans nos maisons, dans nos appartements, bien plus souvent ces derniers temps, nous levons les yeux, nous aussi, vers nos écrans. D'où nous viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tournons-nous donc vers le Seigneur qui prend soin de nous et nous garde, quelles que soient les circonstances. Oui, il nous accompagne sur tous nos chemins, retrouvant ceux qui étaient perdus, conduisant les égarés. Nous prions. Seigneur notre Dieu, c'est en toi qu'est notre secours. Pardonne-nous de l'oublier. Toi qui vois nos peines et nos craintes, notre inquiétude pour le présent et pour l'avenir, nous t'en prions. Viens emplir ces moments de ta présence. Sans toi, nos cœurs et nos esprits sont envahis de mille choses qui parasitent, qui paralysent, qui nous font douter de ton amour pour le monde et de ta victoire sur la mort. Alors nous ne sommes plus là pour personne, ni pour toi et te louer, ni pour les autres et les aimer. Alors aide-nous, Seigneur, à penser à ce qui est en haut, à nous tourner vers toi, en qui nos vies sont cachées. Cachées, n'ignorant pas ce qui se passe au dehors, mais recueillies, préservées, quoi qu'il puisse se passer ici-bas. Amen. Nous chantons dans les recueils arc-en-ciel au numéro 407. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Être pardonné, c'est comme être ressuscité. C'est être réveillé avec le Christ. C'est être remis debout, où que vous soyez. À l'écoute de votre poste de radio maintenant, ou bien avec nous en ligne sur Internet, j'invite chacun et chacune à faire un geste pour signifier cette restauration que Dieu opère en nous. À l'écoute du psaume 91 qui nous redit la victoire du Seigneur sur les forces de mort, on peut se lever, ou bien lever un bras, une main d'espérance, ou simplement dresser l'oreille à ces paroles de pardon et de réveil qui nous sont adressées maintenant par celui qui est la vie. Oui, que nous vivions ou que nous mourions, Dieu est avec nous et nous sommes avec lui. Les forces de mort en nous et autour de nous sont réduites à néant, car Jésus le Christ est sorti du tombeau et il nous promet la vie auprès du Père, dès aujourd'hui et au siècle des siècles. Et nous écoutons maintenant ce chant « Il est sorti du tombeau » qui nous est proposé par le pasteur Thierry Azémar.
Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi j'ai l'espérance, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, alléluia. Sorti du ton. a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance.
Avant de lire la Bible, nous nous unissons dans la prière. Ta parole, Seigneur, est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la partager comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Oui, ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel pour la nourriture des humains. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. »
Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas.
Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit.
C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux.
Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui.
Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, « va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. »
Thank you.
À la lecture de ce passage de l'Évangile selon Jean, il est facile de se dire qu'on connaît bien cette histoire. Plusieurs d'entre nous, en tout cas, l'ont entendu maintes fois, ce récit de Marie-Madeleine au tombeau et de la course de Pierre et de Jean, le disciple que Jésus aimait. Course vers un même tombeau qui se révèle en fait bien différent de ce que tout le monde pouvait attendre. Bien différent de ce que la raison, comme la foi de l'époque, permettait d'espérer. Il y avait bien alors une mouvance dans le judaïsme qui mettait son espérance en la résurrection des morts. Mais enfin, comme on l'entend souvent aujourd'hui, personne n'était encore revenu de là pour affirmer qu'une telle espérance était fondée. Jésus, c'est une première, le premier des ressuscités, comme le diront plus tard des témoins devenus missionnaires. Ainsi l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, « Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. » Mais arrêtons-nous un instant au récit qui nous est fait dans l'Évangile selon Jean. Est-ce vraiment le récit de la résurrection de Jésus? Il faut attendre d'arriver à près de la moitié de ce long texte que nous avons entendu pour qu'il soit question de résurrection. Et encore, c'est par le biais d'une référence aux Écritures dont on nous dit que même les disciples ne l'avaient pas encore comprise. C'est dire la difficulté à comprendre cette histoire de tombeau vide comme l'histoire d'une résurrection, et qui plus est, d'une résurrection qui viendrait fonder l'espérance chrétienne d'une vie après la mort. La difficulté est telle qu'elle laisse Marie-Madeleine en pleurs auprès du tombeau, elle qui était pourtant la première à s'y rendre tandis qu'il faisait encore nuit. Aujourd'hui, nous sommes encore au lieu du tombeau, nous sommes sur le seuil, sur la ligne de crête. Nous pouvons soit rester au dehors, comme Marie-Madeleine, sous le choc de la découverte, donnant l'alerte mais sans parvenir à quitter son désarroi, ou bien nous pouvons entrer, comme Pierre et Jean. Nous pouvons entrer et là seulement nous pourrons voir et croire. Le tombeau, omniprésent dans ce texte, comme pour dire le choc du Vendredi Saint, le caractère inexorable, insupportable de la mort. Celle-ci est encore présente dans les esprits de tous, à travers l'atmosphère ténébreuse dans laquelle commence notre histoire. Au départ, c'est la stupeur qui gagne Marie-Madeleine lorsqu'elle constate l'impensable. La pierre a été enlevée du tombeau. Le rythme s'accélère tandis que Marie-Madeleine court sans qu'on sache bien pourquoi. On l'imagine prendre en sens inverse le chemin qu'elle vient de parcourir et tomber nez à nez, sans forcément avoir cherché à les rencontrer, avec Pierre et le disciple aimé de Jésus, ce disciple qu'on suppose être Jean. À eux, elle annonce la nouvelle. Le Seigneur a été enlevé du tombeau. Le Seigneur a été enlevé du tombeau, ça alors. Ce qui me surprend en réentendant ce passage, ce n'est pas tant que le Seigneur ait été enlevé du tombeau, c'est le fait que nous soyons passés soudain de la pierre roulée au Seigneur enlevé. Marie-Madeleine a-t-elle vu davantage que ce que nous raconte le texte, c'est-à-dire pas juste la pierre enlevée du tombeau, mais aussi le tombeau vide, comme le verront Pierre et Jean un peu plus tard dans le récit? Ou bien fait-elle une déduction hâtive? S'il n'y a plus la pierre, c'est forcément qu'on l'a enlevé lui. Peut-être que cela vous semble évident. Et ça peut l'être quand on connaît la suite de l'histoire. Mais arrêtons-nous un instant sur ce raccourci que, personnellement, je trouve vraiment curieux. Pourquoi passer de la pierre qui a été enlevée du tombeau au Seigneur qui a été enlevé du tombeau? Pourquoi faudrait-il, parce que la pierre a été enlevée, qu'on l'ait enlevé lui? Comme s'il devait être l'objet de tous les désirs et de toutes les convoitises. Il y avait pourtant bien des raisons, religieuses, hygiénistes, pour ne pas y toucher. Bref, cet enlèvement n'a décidément rien d'évident, pas plus qu'il ne ressemble à une résurrection. Remarquons au passage qu'il n'est pas question d'un corps, mais de lui, le Seigneur, comme s'il n'avait jamais cessé d'être vivant pour Marie-Madeleine. Cela fait tout de même 3 jours qu'il a été mis au tombeau, ces jours des morts dans lesquels toute relation à Dieu ou aux humains est radicalement coupée d'après la tradition juive. Mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur a été enlevé du tombeau. Et avec cette prise de parole de Marie-Madeleine, interviennent soudain de nombreux personnages. Les uns ont enlevé le Seigneur. Les autres ne savent pas où trouver le disparu. Une réalité commune est affirmée aux disciples. Nous ne savons pas où on l'a mis. Pourtant, cette femme était seule jusqu'ici dans ce récit. On, c'est ici ce personnage impersonnel, indéfini, qui veut s'accaparer l'extraordinaire. Lui, le Seigneur tant aimé, lui, la pierre d'angle, celle qui tient tous nos édifices, toute notre foi, toutes nos croyances. On désigne tous ceux qui enlèvent le Seigneur à notre vie, à notre foi, ceux qui, comme pris dans une voracité, une avidité envers lui, le mettent dans un endroit inconnu de nous, lui collent des étiquettes, l'affublent d'horribles oripeaux comme au jour du Vendredi Saint, le défigurent, le rendent méconnaissable, introuvable pour nous. Nous, les disciples, tous ceux qui, 3 jours après la mort cruelle de Jésus, se trouvent dans le manque. Manque d'un savoir. Où l'a-t-on mis ? Mais surtout manque d'un être avec. Cet Emmanuel, Dieu avec nous, n'est plus là. Il n'est plus ici avec nous puisqu'on nous l'a enlevé. Quelle amertume que celle de Marie-Madeleine. Même ce nom prophétique de Dieu avec nous n'a plus de sens. La mort a volé jusqu'à son identité. L'abandon sur la croix a été total. Il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Et c'est là, pleurant au bord du tombeau, qu'on retrouve Marie-Madeleine. Après le récit d'une course entre Pierre et Jean, venu prendre la mesure de l'étonnante nouvelle annoncée. Le Seigneur a été enlevé. Pierre et Jean, eux, ont trouvé pour leurs yeux un autre usage. Ils regardent attentivement à l'intérieur du tombeau, que le lecteur, l'auditeur découvre alors en même temps qu'eux. Et là, déception. Il n'y a rien à voir, ou presque. Pas de corps. Seuls les traces des tissus qui le recouvraient, bien rangés et ordonnés. C'est un vivant qui a fait cela. Le premier à l'envisager reste au dehors, comme à distance raisonnable, puis Pierre arrive et entre. Et à travers son regard, nous est décrit minutieusement l'intérieur. La présence des linges laisse entendre que ce n'est pas le corps qui a disparu, mais bien le Seigneur, comme Marie-Madeleine l'avait annoncé. Mais alors quoi? Où est la bonne nouvelle dans tout ça? Rien ici ne nous dit la joie, l'exaltation. Rien ne nous dit ici qu'il y a résurrection. Nous ne savons même pas ce que Pierre pense de ce qu'il voit. Comme si cela ne devait appartenir qu'à lui seul. Comme si cela se décidait au fort intérieur de chacun. C'est alors seulement qu'entre à son tour le disciple que Jésus aimait, figure des disciples que nous sommes. C'est alors seulement qu'il voit et croit, même sans comprendre encore. Le tombeau n'est pas plein, non. Il n'est pas vide non plus. Il est ouvert. Encore faut-il bien vouloir y regarder. Prudemment d'abord, puis franchir le seuil. Avant de faire demi-tour pour en ressortir transformé. Marie-Madeleine, à son tour, en fera l'expérience. Elle aussi finit par se pencher vers le tombeau ouvert. Et à travers ses larmes, elle voit. Ses porteurs de nouvelles lui adressent la parole, non pour lui asséner une vérité, résurrection ou enlèvement, mais pour lui poser une question qui l'invite à se tourner vers elle-même, vers son fort intérieur. Pourquoi pleures-tu? C'est que le seuil marqué par le tombeau ne renvoie pas seulement à une réalité matérielle. Il ne s'agit pas seulement d'être dehors ou dedans. Ce qui importe, c'est l'espace au-dedans de soi. Rien que la question posée montre à cette femme un espace nouveau pour dire sa peine. Et Marie-Madeleine en franchit le seuil. Car cette fois, sa parole devient plus personnelle. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Cette simple prise de parole en jeu s'accompagne d'un mouvement physique. Elle se retourne. Elle voit. Ce Seigneur qu'elle voit alors, elle ne le reconnaît pas, mais lui, en s'adressant à elle, en personne, la révèle à elle-même et lui révèle ce qui sera sa vocation. Ne me retiens pas. Marie peut entendre ici à quel point elle-même était aux prises avec un désir de posséder Dieu. Un désir de mort, en somme, et qui nous habite tous, celui consistant à se considérer comme détenteur, possesseur de la vérité au sujet de Jésus-Christ. Désir qui colle des étiquettes à Dieu et prive alors ses enfants de le connaître. Eh bien, chers frères et sœurs, sortir de ce désir de mort-là, c'est déjà une résurrection. Ici, celle de Marie de Magdala. Nommée par son nom, nommée par Jésus, elle n'a plus besoin de mettre la main sur l'absolu. Il lui suffit d'être portée par lui, par sa vie, dans l'espérance vivante que Jésus-Christ est celui qui résiste à toute forme d'accaparement, à toute tentative d'enfermement, fût-ce dans un tombeau. À chacun, Jésus-Christ propose cette porte ouverte. La franchir, ce n'est pas forcément entrer dans une démarche profonde de conversion, de métanoïa. La franchir, c'est plutôt un léger déplacement physique au départ, à petits pas. Non plus dans la course qui suit la grande nouvelle, mais tout simplement chacun à notre rythme, avec nos pesanteurs, dans la lenteur que nécessite toute germination. Vivant de cette première résurrection du Christ et vivant de notre vocation à aller trouver nos frères et sœurs d'adoption. Franchir le seuil, passer d'un « on » impersonnel à un « je ». Voici ce que je vous propose de faire maintenant avec des bribes de foi sorties de prison ou de confinement de ces derniers jours. Ensemble, nous confessons notre foi. Seigneur notre Dieu, on dit que le monde a forcément un grand architecte. Moi, je crois que tu es la source, le créateur, d'aujourd'hui et de toujours, un souffle de vie et d'amour. Seigneur notre Dieu, on t'érige en un roi qu'on idolâtre. Moi, je crois qu'en Jésus, Fils spirituel, parfait, tu t'es montré ami des démunis, des femmes méprisées, des malades. Tu étais, toi, un sans maison, vrai homme allant au bout de ses convictions, allant jusqu'à accepter la mort sur une croix. Seigneur notre Dieu, on dit que Jésus, c'est toi, fait homme, pour sauver le monde, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour tous les hommes, y compris pour moi, qui suis une femme. Moi, je le crois. C'est bien toi, mon personnage préféré dans la Bible, mon héros, celui auquel je me réfère le plus possible, qui me sert de guide et d'exemple. Seigneur notre Dieu, pour certains tu es un prophète et ta résurrection serait réincarnation. Pour d'autres, tu es un grand sage, un instruit qui a voulu faire changer le monde. Pour moi, tu es la force de l'homme, la personne qui m'a donné la vie parce qu'inspirée par Dieu et poussée par son souffle, tu as su enseigner le partage, le pardon. Jésus, mon avocat, mon ami le meilleur, celui qui ne me juge pas, mais sait quand je me perds. Tu es celui vers qui je me tourne quand tout est difficile, quand le doute envahit ma vie ou menace mes proches. Tu es le vivant qui me rend vivant. En marche pour que je le sois aussi, qui à la fois me précède, m'attend et m'accompagne à chaque regard, à chaque rencontre en humanité, à chaque prière donnée, à chaque tristesse pardonnée. Tu es celui qui garde le rythme de mes pas et qui me montre le chemin vers le Père, qui m'ouvre les portes de la vie en venant inlassablement me relever. Tu es le chemin, la vérité et la vie, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, notre Dieu, on dit beaucoup de choses sur toi, Seigneur. Moi, je crois que le silence parle de toi, qu'il nous apprend à t'écouter et à nous écouter, Car au fond, qui es-tu ? Je ne le sais pas. Ce que je crois, c'est que tu me montres l'amour plus fort que tout au monde. L'amour extrême qui relève et nous sauve. L'amour qui nous est offert de la part de Dieu. Amen.
Voilà, après cette confession de foi, c'est le moment, comme dans un culte, le moment de l'annonce, le moment de l'offrande aussi. Et vous êtes nombreux, dans toutes les paroisses de Nîmes, à avoir fait l'offrande de vos mots à travers cette confession de foi, pour construire ensemble cette confession de foi. Pour ceux qui seraient plus enclins à faire une offrande en argent, n'oubliez pas qu'il est possible en ce temps de confinement de donner à l'Église. Elle ne vit que de dons. Vous pouvez faire donc un chèque et l'adresser aux 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes, ou effectuer un virement en ligne. Vous trouverez toutes les informations nécessaires, mais aussi des annonces sur le site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr. De même, pour les paroissiens de l'église française de Saint-Gall, du canton de Saint-Gall et même de Chaffouze, vous pouvez trouver toutes les informations concernant la vie de notre église en Suisse, puisque j'en suis le pasteur. Ici, donc, vous m'avez délégué à Nîmes sur le site, le nouveau site de l'église française, église française en un seul mot, .ch. Pour aller plus loin dans ce temps d'offrande aussi, et nous conduire dans la communion, voici parmi toutes les annonces qu'il faudrait partager un message de Christian Polge, président de l'Association protestante d'assistance, l'APA. Donner, recevoir, partager. Nous y sommes invités encore plus dans cette période de confinement. Au sein de l'APA, une chaîne de fraternité s'est construite jour après jour. Elle permet de recevoir un colis alimentaire, un appel téléphonique qui vient rompre le silence d'une journée bien longue. Les mains se tendent pour donner et recevoir les mots, s'échangent pour le plaisir de se parler. Ces gestes d'aujourd'hui éclairent, réconfortent, soutiennent. À chaque rencontre, un mot résonne. Merci.
Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous ne pouvons pas marcher si nous n'avons pas du pain pour conforter nos membres. Nous ne pouvons pas chanter si nous n'avons pas du vin pour réjouir nos cœurs. Au long de nos journées, de nos semaines, de nos années, donne-nous les nourritures dont nous avons besoin. Et que nos mains soient tendues pour recevoir ou pour donner, donne-nous aujourd'hui de partager, d'accueillir, de rencontrer. Et par les mains qui sont les nôtres, nourris, des nourritures de ta table, les démunis comme les vaillants, comme l'a fait Jésus le Christ, mort et ressuscité, pour tous et pour chacun de nous. Amen. Frères et sœurs, chers amis, le voici, l'invité inattendu de nos vies. Il s'adresse à nous, maintenant.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi.
Il vous appartient d'habiter ce temps de rencontre avec le Christ et les uns avec les autres, dans vos familles, dans vos cœurs, avec l'Église universelle. En faisant mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, c'est l'espérance que par l'Esprit-Saint, notre partage du pain et du vin devienne signe de la présence de Jésus-Christ parmi nous. Le cantique proposé par Thierry Azémar, « Voici le pain », au numéro 594 des Cantiques arc-en-ciel, vous accompagne. Tout en chantant, en rompant le pain, en élevant la coupe à votre rythme, recevez l'assurance que, quelles que soient les circonstances, le pain que nous partageons simplement aie communion au corps du Seigneur Jésus-Christ, et que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce aie communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici ton pain, voici voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces du Fils de Dieu. Le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Force plus forte, voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Source d'eau vive pour notre soif, voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Porte qui s'ouvre sur nos prisons, mains qui se tendent pour le pardon. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
Nous te remercions, Seigneur, pour la joie du partage, pour ce repas pris les uns et les unes avec les autres, malgré les distances qui nous séparent. Toi, tu es au milieu de nous, et c'est toi qui fondes notre unité. Aussi, à cette rencontre, un mot résonne. Merci. Avant de nous quitter, nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres. Cette prière a été composée par le Conseil de l'aumônerie des hôpitaux et maisons de retraite protestantes de Nîmes.
Seigneur, en ce jour de Pâques, fête de Pâques, qui cette année résonne particulièrement dans nos cœurs et nos esprits, nous venons te prier les uns pour les autres. Car plus que jamais, nous avons besoin de toi et des autres.
En ce jour où tu nous apprends et nous réapprends que Christ a vaincu la mort, nous te confions particulièrement les familles endeuillées, meurtries. Apprends-nous, Seigneur, les gestes et les paroles qui consolent, qui soulagent, qui redressent.
Nous te prions, Seigneur, pour tous ces soignants qui, jour après jour, sans relâche, luttent, soignent, sauvent et accompagnent. Seigneur, renouvelle leurs forces, sois à leur côté pour les protéger et les garder.
Nos pensées, durant cette crise que tous les humains traversent, se portent particulièrement vers les malades qui se battent heure après heure, les résidents des maisons de retraite qui se sentent si fragilisés, les prisonniers doublement enfermés, les laissés pour compte de notre société encore plus isolés, les militaires et les pompiers, eux aussi sur le front des opérations. Et pour tous ces citoyens, qui au travers de leur métier, et malgré les menaces de contamination, par leur présence et leur travail, nous garantissent une vie normale.
Nos pensées et nos prières rejoignent les habitants des pays les plus meurtris par ce virus. Les Italiens, les Espagnols, les Américains. Et puis également ces pays en devenir qui n'auront pas les moyens de se défendre comme nous, face à la maladie. Seigneur, apprends-nous la solidarité, la bienveillance et la tolérance.
Aide-nous, Seigneur, à supporter le confinement que nous impose cette maladie. Nous pensons plus particulièrement aux familles entassées dans de petits espaces, à ceux qui, n'ayant plus de ressources, peinent à trouver de quoi vivre ou survivre.
Seigneur, que ton esprit inspire chercheurs et savants dans la recherche de médicaments, vaccins qui arrêteraient ces virus dans le respect de la dignité de chacun.
Nous savons, Seigneur, que durant ces jours sombres, tu es là, à nos côtés, fidèle au milieu de nos luttes, nos peines, nos douleurs et nos révoltes. Tu es là, Seigneur, et nous t'en louons.
En ce jour qui rassemble tous les chrétiens autour du monde, nous venons également te prier pour notre Église universelle, fragile en ces temps de détresse, mais solide comme la pierre roulée qui nous donne accès au miracle de ton amour, la résurrection, la sortie des ténèbres et du doute, de la douleur et de la mort, pour accéder enfin à l'amour parfait qui bannit toute crainte.
Seigneur, en ce matin de Pâques, nous te louons et nous te bénissons, car Christ a vaincu la mort. Et notre reconnaissance et notre communion les uns avec les autres, nous la partageons en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons dans les recueils arc-en-ciel au cantique 616 « Confie à Dieu ta route ». Frères et sœurs, le temps de nous quitter est là. Ce passage du chapitre 20 de l'Évangile selon Jean, dans la suite de nos lectures bibliques, vous accompagne.
Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ».
Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Jésus, le Christ, le premier des ressuscités, vous donne sa joie et sa paix, qui surpassent tout ce qu'on peut comprendre. Chaque jour, en toute discrétion et délicatesse, il se tient à la porte et frappe. Oui, il vient faire toute chose nouvelle, tout être nouveau. Allez, avec la force de son amour. Amen.
Le culte de Pâques vous a été présenté par Claire de Ménard, pasteur de l'Église protestante unie à Nîmes, à la régie Sylvain Loury et au micro Redouane Esbanti. Joyeuse Pâques et à bientôt.